Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Il y a ce pédophile en Saskatchewan qui a déclenché une alerte Amber en kidnappant deux enfants. C'est une histoire assez nébuleuse, Félix Séguin. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, on va faire le tour de cette question. Il y a Benjamin Martin Moore, c'est lui le pédophile en question, qui aurait kidnappé les deux petits, Luna et Hunter Potts. Et c'est arrivé lundi, là, selon la Gendarmerie royale du Canada. Moore, lui, le pédophile, donc, a déjà été condamné dans le passé pour agression sexuelle, possession de pornographie juvénile aussi. On en parle aujourd'hui parce que hier, on a un peu manqué ça, mais si vous allez sur le site du Journal de Montréal, vous allez voir le texte complet à ce sujet-là fait par l'agence QMI. Moi, c'est une histoire qui m'effraie énormément, là, parce que ils sont présumément enlevés par quelqu'un qui leur veut du mal. C'est pas comme un rapt familial, c'est assez différent. Alors, la GRC croit que les enfants sont en danger. Et comment ça commence, cette affaire-là? C'est que la GRC est appelée pour venir en assistance au ministère des Services sociaux en Saskatchewan dans le cadre d'une enquête qui porte sur des allégations qui concernent le suspect. On sait pas c'est quoi ces allégations en question. Alors, la GRC se présente au domicile de la famille, là, des deux jeunes. Alors, on constate que tout le monde a fui les lieux. La GRC a dû attendre longtemps que le ministère des Services sociaux émette une ordonnance d'arrestation pour pouvoir déclencher la fameuse alerte Amber.
Est-ce qu'on sait si le suspect connaît les jeunes enfants? Il les connaît pas, c'est dans son entourage?
Ben moi là, l'idée que ça me fait quand je lis cette phrase là, parce que je te la lis directement tirée du communiqué entre autres de la GRC, c'est qu'on ne peut pas le dire. D'après moi, étant donné que les services sociaux, donc services de protection de l'enfance ou l'équivalent de notre direction de la protection de la jeunesse, semble être dans ce dossier en Saskatchewan, probablement qu'on ne peut pas parler des liens qui unissent le suspect et les enfants, s'il y en a, j'imagine que c'est pour ça. Quoi qu'il en soit, la police pense que les enfants se trouveraient avec M. Moore aux États-Unis, peut-être dans le Dakota du Sud, c'est l'État limitrophe de la Saskatchewan, entre autres, mais pourrait tenter de revenir au Canada. Bon, Moore, ça fait un peu plus de 10 ans, là, ça fera bientôt 15 ans là, qu'il a été reconnu coupable d'attouchement sur des mineurs puis de possession de pornographie juvénile. T'imagines l'inquiétude quand tu sais que des enfants sont avec un type pareil en fuite. Mon Dieu, moi je lis à chaque fois que je lis cette histoire là, je frémis vraiment.
Mais je me pose la question. Tu sais, il y a comme plein de questions qui m'arrivent en tête. Comment il a pu traverser la frontière? S'il a déjà un casier judiciaire, comment les Américains ont pu le laisser rentrer aux États-Unis? Comment on fait rentrer deux enfants, pas de parents, aux États-Unis sans que personne pose la question? Il y a comme une série de questions à laquelle on n'a pas de réponse actuellement.
Exactement, et c'est le propre des alertes Amber aussi, parce que les policiers se gardent énormément d'informations. C'est d'ailleurs quelque chose qui ne fait pas l'unanimité. Ils se gardent beaucoup d'informations pour fin d'enquête, alors que on se dit toujours qu'en diffuser le plus serait en tout cas du point de vue de l'intérêt public pour retrouver le suspect, surtout les enfants en bonne santé, ce serait la chose à faire. Mais bon, c'est pas nous qui sommes dans les souliers de la police, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on a vraiment dans ces cas-là, je pense, là, une zone où les médias et la police ne s'entendent pas. Puis dans ce cas-là, sais-tu quoi, Yasmine, je pense que c'est souvent la police qui a raison. parce qu'elle, c'est elle qui a en main les éléments les plus critiques pour préserver cette chasse à l'homme-là.
Absolument, voilà. Bien sûr. On pourrait, imaginons un dénouement, espérons un dénouement heureux à cette histoire, éventuellement avoir des plus de détails sur ce qui a pu se passer. Il y a cette crise des opioïdes qui continue quand même de secouer les États-Unis.
Moi, c'est un sujet qui me passionne, que je vois sous la lorgnette de la santé publique, je te dirais, juste pour t'expliquer pourquoi, en fait. Moi, dès le début de la crise des opioïdes aux États-Unis, il y a quoi? Près d'une dizaine d'années maintenant, là, je m'étais déplacé dans un État que l'on connaît très bien, le Vermont, pour aller à Burlington, entre autres, pour aller à Montpellier, la capitale du Vermont, parce que déjà, dans cet État du nord des États-Unis, on voyait les ravages des opioïdes. Hein? On sait comment la crise des opioïdes a commencé. En fait, c'est que il y a eu, et c'est documenté, il y a plusieurs d'ailleurs documents justement qui existent à ce sujet-là, il y a eu une surprescription à un certain moment donné aux États-Unis d'opioïdes synthétiques pour traiter des douleurs médicales. Donc, les médecins ont beaucoup prescrit, exemple, d'oxycontin. L'oxycontin que consommaient certains patients vient qu'à créer et crée assez rapidement l'accoutumance. Et quand le médecin cesse de prescrire l'oxycontin, les patients se tournent vers le marché noir. Et sur le marché noir, il y a un tas de merde qui est vendu, dont de l'oxycontin, mais dont aussi d'autres opiacés synthétiques, dont le fentanyl, qui est, comme tu le sais, beaucoup plus fort que l'oxycontin, etc. Alors, il y a un texte vraiment très intéressant qui est reproduit aujourd'hui dans le journal. C'est un texte de l'agence France-Presse, mais je vous conseille d'aller voir ça. Ça raconte l'histoire de Michaela Cox. C'est une élève du secondaire en Virginie. Elle a pensé prendre un médicament pour traiter la douleur, l'anxiété obtenue par un ami. Par contre, la pilule qu'elle a avalée tout juste après son 16e anniversaire, c'était du fentanyl, donc 50 plus puissant que l'héroïne, et elle est morte presque immédiatement. Et là, tu comprends l'horreur. On parle pas juste de gens qui se trompent, on se demande pourquoi ces pilules-là entrent dans les maisons. Ben, c'est à cause du marché noir. Puis là, dans l'article de l'AFP, la mère de cette fille-là témoigne. C'est rough. Il y a eu 80 000 personnes qui sont mortes d'overdose par opiacé l'an dernier aux États-Unis. Pour la plupart, ce sont des drogues synthétiques de synthèse, donc comme le fentanyl. C'est 7 fois plus qu'il y a 10 ans quand la crise a commencé. T'imagines le problème de santé publique, Yasmine, aux États-Unis? Ray Donovan, là, qui est le responsable de la fameuse DEA,
oui,
dit que c'est l'épidémie la plus dangereuse qu'on a vécue depuis toute l'histoire du trafic de drogue aux États-Unis. C'est pas rien. Chez les jeunes, écoute les stats, en 2019, 493 adolescents décédés d'overdose, des ados. Donc ça, c'est 2019. Deux ans plus tard, 2021, 1146.
C'est énorme. Je me dis comment ces jeunes-là tombent sur des pilules comme ça, tu sais, quand t'es un adolescent. Je comprends, là, la drogue, c'est partout, puis c'est facile de s'en procurer, mais tu sais, c'est des overdoses, là.
C'est des overdoses, puis c'est les moyens d'entrer en communication avec les jeunes aussi qui posent beaucoup de questions dans ce cas-ci. Et les réseaux sociaux sont devenus. C'est malheureux, là, mais les réseaux sociaux, moi, je suis dans un débat présentement. On est dans un débat, moi et ma femme, que tu connais bien, sur l'éducation que l'on doit donner à nos enfants quant aux réseaux sociaux. J'ai une fillette de 11 ans qui meurt d'envie d'avoir des comptes TikTok, d'avoir des comptes Instagram, d'avoir des comptes Facebook, etc.
Snapchat.
Et Snapchat et tout ça. Bon, en tout cas, pour conclure cette partie d'histoire personnelle de fil en aiguille, on lui a téléchargé TikTok, mais avec un compte parental. En tout cas, c'est très, très, très encadré, etc. Finalement, très heureux. Elle aimait pas ça, elle s'ennuyait. Donc là, elle a maintenant un compte Instagram où elle peut suivre uniquement les membres de sa famille. Et quelques amis très proches. Et puis, en toute transparence, on voit ce qu'elle peut publier. On autorise les publications. En tout cas, bref, tout ça pour dire que...
Hey, c'est tout un casse-tête pour des parents.
Hey, je te jure. Oui, je te jure. Et tout ça pour dire que, tu sais, on est deux parents journalistes, donc on est très conscients, parce qu'on fait des reportages à ce sujet-là, ou si on les fait pas, on les voit passer, que les influences, certaines mauvaises influences, entrent par la porte des réseaux sociaux. Puis dans le cas de la facilité de se procurer des opioïdes, ça arrive aux États-Unis par Snapchat, par certains. Là, c'est des comptoirs de vente en ligne qui sont comme déguisés en promettant certains produits, mais en le fond, on sait très bien que c'est des opioïdes. Alors,
écoute, le fentanyl, dans l'article auquel tu fais référence, tu sais, je vois que cette drogue-là fait un succès fou auprès des jeunes parce qu'elle coûte pas si cher que ça par rapport, par exemple, à de la cocaïne ou à de l'héroïne. On parle d'un kilogramme de produits purs par les groupes criminalisés. Ça coûte à peu près 12 000 $ pour que le groupe criminalisé l'achète. Et ensuite, ça le transforme en, là, je parlais d'un kilo, il le transforme en 1,5 million de pilules.
Bien sont,
qui chaque pilule coûte 30 $. Imaginez l'argent fou qu'ils se font. Imaginez combien, quand on trouve 1,5 million de pilules, c'est 1,5 million de consommateurs ou de pilules qui vont être consommées. C'est ça qui crée des overdoses dans les salons, dans les chambres à coucher des enfants.
Bien sûr, bien sûr. Puis c'est aussi cette consommation-là non supervisée, exemple, c'est pas pour rien que les différents centres de prévention suggèrent aux narcomanes de consommer, surtout aux héroïnomanes, entre autres, de consommer accompagnés afin qu'ils puissent réguler un peu leur situation s'ils tombent sur une mauvaise drogue. Sauf que chez des adolescents qui ne sont pas encore narcomanes, cette habitude de consommation n'est pas là. Et c'est là où la dose, un gramme peut faire la différence. Ben, pas juste un gramme. Là. On parle de les fameuses têtes d'épingle, là, mais où un grain de fentanyl peut faire la différence entre la vie et la mort. Donc, plus j'en parle de cette affaire-là, puis plus je me dis qu'il faudrait peut-être encore refaire. Et ça me donne l'idée de le faire dès cet après-midi. Je vais poser quelques questions de refaire le portrait au Québec, parce que quand on avait tenté de regarder si, exemple, le Canada suivait la courbe des États-Unis quant à cette épidémie d'opiacés, on avait trouvé que non, pas tant. À part Vancouver, évidemment, là, et sa fameuse rue Hastings, où il y a énormément, ce qui est un lieu de perdition incroyable pour une certaine classe très pauvre de la société et toxicomane. On regardait aussi si ça pouvait se reproduire au Québec quand le fentanyl a commencé, tout ça, puis pas tant. Alors, ça me fait l'idée qu'on devrait refaire un état des lieux là-dessus.
Il y a aussi cette histoire de Locke Merville qui continue de faire parler de lui pour les mauvaises raisons et il se fait réclamer pas moins qu'un demi-million de $.
Ouais, par un investisseur qui lui reproche d'avoir entraîné dans un projet pas tout à fait clean de fibre optique en Afrique. Selon la poursuite qui est intentée par Victor Stanley Management et que Merville conteste d'ailleurs, là, il semble qu'il soit le cerveau d'une opération, là, que Merville, selon les prétentions de la demanderesse, là, et qu'il utilise la supercherie puis le mensonge pour frustrer, je te lis un extrait du jugement, là, les droits de la demanderesse sur ses biens en argent. Alors, selon le document de course, ça a commencé en 2020. Merville aurait sollicité cette entreprise-là pour investir dans un projet d'affaires en RDC, donc République démocratique du Congo. Il fallait investir 1,2 million US dans une société française pour déployer un réseau de fibre optique en Afrique centrale. Merville affirmait, selon toujours les prétentions de la demanderesse, que la société était évaluée à 12 millions par une firme indépendante. Alors, il semble que ce soit pas tout à fait ça. Il semble que l'équipement de la firme est en piètre condition. Ça consistait entre deux antennes usagées qui n'étaient pas tout à fait en condition, qui étaient situées dans un bureau de poste. Donc, genre de supercherie alléguée là, des demandeurs dans tout ça. Alors, Locke Merville, qui a déjà eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec la justice.
Moi, je suis toujours impressionnée par ces investisseurs à qui on leur dit, ben c'est une entreprise évaluée à 12 millions de $ pour un projet de 1 milliard de $. Puis, on a besoin d'argent, puis eux qui décaissent. Impression que, moi, ça me fait un petit peu plus de vérification.
Moi, je suis toujours impressionné par Locke-Merville parce que au début, hein, Locke-Merville, après le tremblement de terre en Haïti en 2010, on le portait au nu, hein, n'est-ce pas? Puis on l'interviewait avec son projet Village-Village pour fournir des abris, qui est pas un projet qui naît d'une mauvaise idée, mais là, après ça, on apprend que Locke-Merville aura eu des comportements extrêmement douteux dans sa vie privée. On apprend, bon, également plusieurs allégations qu'il a toujours nié d'ailleurs de fraude, etc. Écoute, je dois profiter du fait que c'est une chronique ici où on peut, où on a une libre portion d'opinion là. Tu sais, les journalistes qui ont à côtoyer des personnalités comme ça, on se dresse un petit carnet, hein, noir là, de ceux qui sont pas très gentils avec nous. Et je te laisse en te disant ceci. Pour plusieurs d'entre nous, Locke-Merville trônait au haut de cette liste.
De ce petit carnet, ouais. Que j'aimerais trouver. Ouais. Je devrais m'en faire un, des petits carnets. Je commencerai rapidement à le remplir. Ça me vient comme ça très facilement, Félix Séguin. Merci beaucoup. On se retrouve demain.
Ça marche.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain 7h le matin. Je vous laisse entre les mains de mon collègue Alexandre Morin-Villouellette. Je vous souhaite une excellente journée.